Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Quatre fois bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour, Maurice?
Je sais pas. Avec l'auditeur, ça fait quatre.
Ah! Ben oui, on est trois dans le studio et bon, c'est quelque chose. Maurice Bolduc qui est à la régie en remplacement de Mathieu Tessier pendant ses vacances. On est très content de travailler avec toi, Maurice, encore.
Plaisir.
Et aujourd'hui, à l'émission, on va parler avec Pierre Perrault à sa dernière chronique insolite. Qu'est-ce qu'il remplaçait notre ami qui fait cette chronique-là, Louis de Bernis. Allô, Pierre.
Allô, salut. J'ai pleuré en venant ce matin.
Ben oui.
Mais c'est à cause de la pluie.
Ben oui. Ah, quatre fois bonjour, parce qu'il y a quatre fois plus de pluie aujourd'hui que d'habitude. Alors, Pierre, on va parler de quoi aujourd'hui?
Ben, écoute, les dernières semaines, on a parlé beaucoup d'endroits insolites à aller visiter un peu partout. Mais là, j'ai fait un petit spécial. J'ai trouvé des événements qui ont lieu à Montréal ou ailleurs, qui sont des événements insolites, dont peut-être la plupart des gens ont jamais entendu parler, mais qui sont très intéressants, surtout très surprenants.
Ah oui, des belles surprises. J'ai lu le texte que tu as préparé, j'ai hâte de l'entendre. Et puis, moi, de mon côté, je vais parler de la journée mondiale de l'amitié, ou journée de l'amitié qui a été décrétée par l'ONU, et avec trois personnes qui font des parrainages. Alors ça va être intéressant. On va aussi parler de ce sondage Ipsos sur la tolérance ou l'intolérance vis-à-vis les diversités sexuelles et de genre. On va contacter donc Michel Doré, qui est sociologue et professeur émérite à l'Université Laval. Et un retour sur la conférence AIDS 2026 qui se tenait à Rio de Janeiro. Tout frais revenu de Rio, en fait, le docteur Jean-Pierre Routy sera là avec nous. À la météo aujourd'hui, hein, ça va être partout au pays, à quelques exceptions, des nuages, des averses, risque d'orage. Les minimums et maximums, ben, minimum surtout, ça va entre 22 et 24, presque partout au pays. L'humidex, par contre, alors ça va être lourd encore, hein, 29 à 33. Bonne nouvelle, par contre, si vous allez à l'extérieur, vous avez plutôt besoin d'un parapluie que de mettre de la crème solaire parce qu'un 10 UV est de 3. Et puis, ben, vous voyez, il y a un avertissement de pluie abondante pour le Saguenay, la Tuque et Ottawa. Et bon, les exceptions à tout ça, il n'y a pas de pluie en Abitibi avec 26, dégagement à Edmonton avec 21. Et savez-vous où va faire vraiment beau et frais et agréable sur la côte ouest, comme d'habitude? L'éphéméride du jour... 1977 marque la sortie en ce 3 août de la guerre des étoiles. Ça a commencé au Royaume-Uni, c'est devenu un phénomène mondial, et l'un des films les plus influents de l'histoire du cinéma. Et pour nos amis du Niger, nos amis nigériens, ben, bonne fête de l'indépendance aujourd'hui, parce que vous avez acquis l'indépendance de la France en 1960, et nous, on va en musique.
Mademoiselle, qui pensez-vous être? Une dynamite ou une bombe? Je m'éloigne des fenêtres. Je nous veux à l'autre bout du monde avec des palmiers sur la tête. Mademoiselle, vous êtes celle que vous pensez être. Viens, on profite de la vie comme on avait dit. Je me sens mieux quand j'ai mon petit verre Margaretti. Je ne préfère en bord de mer que dans un carré vide. Quand on est ensemble, le reste paraît vide. Je partirai pas tant que t'es pas ready. Je voulais d'une histoire qui s'envole sans atterrir. Pas de Shakespeare, non, je te parle pas d'une tragédie. Avec toi, je me vois dans un taxi en Amérique. Ou même sur une pirogue en Malaisie. Il s'agit d'aller loin, pas d'aller vite. Mademoiselle, qui pensez-vous être? Une dynamite ou une bombe? Je m'éloigne des fenêtres. Je nous veux à l'autre bout du monde avec des palmiers sur la tête. Mademoiselle, vous êtes celle que vous pensez être. Mademoiselle, qui pensez-vous être? Soit le beau temps ou la pluie qui tombe sur ma tête. Et si on se perd de vue, je nous achète des lunettes. Mademoiselle, maintenant vous savez qui vous êtes. Quand j'ai bien mangé, qui me souhaite bon appétit? Dans un grand restaurant, sur un banc sous la pluie. J'en fais peut-être trop, mais je veux de toi pour toute la vie. Elle
laisser des vagues de tsunami. Tu me fais chavirer pendant toute la nuit. Des fois elle m'ignore et je me sens comme le valet de pique. Du coup je parle de toi dans mes songes, je trouve ça pathétique. Dure jamais longtemps, c'est ça qui est fantastique. Les autres sont belles, vous êtes magnifiques. Elle se désire, vous êtes l'Amérique. Mademoiselle, qui pensez-vous être? Une dynamite ou une bombe? Je m'éloigne des fenêtres. Je nous veux à l'autre bout du monde avec des palmiers sur la tête. Mademoiselle, vous êtes celle que vous pensez être. Mademoiselle, qui pensez-vous être? Soit le beau temps ou la pluie qui tombe sur ma tête. Et si on se perd de vue, je nous achète des lunettes. Mademoiselle, maintenant vous savez qui vous êtes. Mademoiselle, dites-moi si vous descendez du ciel. J'ai beau demander au soleil, est-ce que vraiment vous êtes réel?
Mademoiselle par Freds.
Les unes aujourd'hui dans la presse plus. Le président états-unien Donald Trump annonce une suspension des bombardements vis-à-vis de Téhéran. Il affirme qu'une reprise des négociations entre Washington et l'Iran s'amorce aujourd'hui. Le président états-unien soutient aussi que des progrès diplomatiques ont été réalisés afin de réduire les tensions et de rouvrir le détroit d'Ormuz. Or, le ministre iranien des Affaires étrangères dément catégoriquement la tenue de pourparlers directs avec les États-Unis. Téhéran indique se concentrer sur des discussions avec le sultanat d'Oman afin de sécuriser ce passage maritime stratégique. Dans la foulée de cette annonce de suspension des frappes états-uniennes, les cours mondiaux du pétrole ont enregistré une baisse marquée sur les marchés financiers. Dans Le Devoir, une entente de principe vient d'intervenir entre WestJet et ses 4000 employés, mettant fin à la grève déclenchée hier. La reprise du service se fera graduellement. Les agents et agentes de bord du groupe WestJet avaient déclenché une grève à la suite du rejet massif d'une entente de principe négociée avec la direction. Le syndicat canadien de la fonction publique, qui représente plus de 4000 membres du personnel navigant, pointe du doigt un mécontentement marqué concernant les salaires et les conditions de travail, en particulier les heures de travail non rémunérées au sol. L'arrêt de travail donc avait entraîné la perturbation et l'annulation de centaines de vols à travers le réseau du transporteur. Rappelons que la réglementation canadienne impose des obligations précises aux transporteurs. La compagnie aérienne doit d'abord vous proposer une réservation alternative sur son prochain vol disponible ou sur celui d'un autre transporteur, sans frais additionnels. Et si cela ne convient pas ou dépasse un délai de 48 heures, vous êtes en droit d'exiger un remboursement complet de votre billet selon le mode de paiement original. En cas de retard prolongé à l'aéroport, WestJet doit également fournir de la nourriture et de l'hébergement pour la nuit. Enfin, conservez l'ensemble de vos pièces justificatives et reçues pour toute réclamation ultérieure auprès de la compagnie ou de l'Office des transports du Canada. Toujours dans Le Devoir, des vents violents accompagnés d'un front froid attisent plusieurs feux de forêt toujours non maîtrisés dans le sud de la Colombie-Britannique. Le passage de ce système météorologique combiné à des conditions de sécheresse extrême force la délivrance de nouveaux ordres d'évacuation touchant plus de 1800 propriétés. Et je rappelle qu'au Canada, on dénombre plus de 800 foyers d'incendie. Dans la presse plus, une collision entre deux hélicoptères bombardiers d'eau est survenue près d'Athènes lors des opérations de lutte contre un incendie de forêt majeure. L'accident a coûté la vie à 3 membres d'équipage et a fait 2 blessés graves. Cet événement s'inscrit dans une vague de brasiers d'une violence exceptionnelle qui frappe la Grèce, où des températures dépassent 40 degrés et des vents violents propagent les flammes vers des zones résidentielles de la capitale, forçant l'évacuation de milliers d'habitants. Pendant ce temps, en France, les services d'urgence affrontent également des feux incontrôlables dans le sud du pays, notamment dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Des centaines d'hectares de végétation ont été détruits par les flammes. Plus de 2000 pompiers français sont mobilisés sur le terrain avec le soutien d'avions Canadair. Face à cette situation, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne active le déploiement de renforts aériens et terrestres pour venir en aide aux autorités grecques et françaises.
J'espère encore que quelque part l'atteinte sais, je sais, j'ai besoin de rien. Attends ici, je sais, je suis là.
J'espère encore que, quelque part, l'attente s'arrête.
Et c'est le temps maintenant de la chronique de Pierre Perrault. Allô, Pierre!
Salut!
On est dans l'insolite, mais un autre genre d'insolite, hein?
Oui, bien, mes trois premières chroniques, vous avez démontré que le Québec recèle des endroits mystérieux, méconnus, rattachés à son histoire, à ses mythes, à ses légendes, bien ancrés dans la culture collective. Mais... pour ma dernière chronique, aujourd'hui, je vais vous amener sur d'autres terrains de l'insolite avec des histoires qui vont éveiller votre curiosité. On commence avec un petit sujet un peu spécial. En 2024, la presse a recensé les codes de vie et les règlements de plus de 450 écoles primaires dans la province. Ce recensement non exhaustif permet de constater à quel point la liste des comportements proscrits est longue. Certains interdits reviennent souvent. Ainsi, on assiste dans les cours d'école à la mort d'un grand classique hivernal, la bataille des boules de neige.
Oh non!
Lancer de la neige est illégal dans la majorité des établissements. Mais cet interdit ne date pas d'hier.
Ah ouais?
Nous allons nous attarder à une histoire qui concerne les joies de l'hiver à Montréal. Au milieu du 18e siècle, les autorités de Montréal ont interdit à plusieurs reprises les batailles de boules de neige jugées perturbatrices pour l'ordre public. Le juge Guiton de Montrepos, qui n'était pas de tout repos, a notamment signé des ordonnances en 1741, 1742 et de nouveau en 1753 à la suite de plaintes de citoyens dénonçant des jeunes lançant des boules de neige sur les passants. Malgré le caractère anodin du jeu, les interdictions ont été renouvelées chaque hiver, accompagnées de sanctions sévères, dont une amende de 50 livres.
On avait des livres à l'époque et non pas des dollars.
Voilà.
Ouais.
C'était la monnaie anglaise.
La monnaie anglaise, effectivement.
Ces ordonnances proclamées publiquement au son du tambour illustrent la volonté des autorités de maintenir l'ordre établi, au point de considérer les batailles de boules de neige comme un véritable trouble à la tranquillité publique. Imaginez la stupéfaction si on condamnait aujourd'hui à 150 $ un écolier qui a relancé une boule de neige.
Mais Pierre, toi et moi, on a fait ça, lancer des boules de neige aux passants. Moi, c'était vraiment mon passe-temps favori. J'étais vraiment tannant.
Dans mes souvenirs, ça, je me rappelle.
Ah, non, toi, t'étais sage, pas comme moi. Ouais, je comprends.
Non, non, vraiment, vraiment, j'ai pas manqué ça non plus.
Alors, on reste à Montréal.
Oui, toujours à Montréal, on se transporte au Musée des Beaux-Arts. Tout le monde a bien entendu parler de l'audacieux vol au Musée du Louvre à Paris en octobre 2025.
La couronne, oui.
Mais combien savent ou se rappellent qu'un crime similaire commis au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 1972, une histoire racontée dans le recueil de Sylvain Daigneault, Québec insolite, tome 2, paru en 2022. Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1972, trois voleurs armés s'introduisent par un puits de lumière dans le Musée des Beaux-Arts de Montréal, profitant des travaux qui avaient désactivé une partie du système d'alarme. Après avoir maîtrisé et ligoté les gardiens, ils décrochent 35 tableaux de maîtres, dont Rembrandt, Rubens, Picasso, Goya et Courbet, ainsi que 39 bijoux anciens. Lorsque le système d'alarme s'est déclenché, ils prennent la fuite, abandonnant 18 œuvres sur place. La valeur du butin est alors estimée à 2 millions de $, faisant de ce cambriolage le plus important de l'histoire canadienne. Quelques semaines plus tard, les voleurs réclament une rançon de 500 000 $ en échange d'étoiles et déposent une œuvre signée Jan Brueghel l'Ancien, qui sait, on ne sait pas, dans un casier pour prouver leur sérieux, mais il s'avérera qu'il s'agissait probablement d'une copie. Mm. En 1975, les assurances versent 2 millions au musée, qui achète alors une toile attribuée à Rubens, le léopard. Mais celle-ci sera plus tard attribuée à l'un de ses élèves. Ça n'allait pas bien pour eux.
Ouais.
Malgré une relance de l'enquête en 1992 et des récompenses offertes, aucune des œuvres volées au Musée des Beaux-Arts en 1972 n'a jamais été retrouvée. Selon certains experts, elle se trouverait aujourd'hui dans la collection privée d'un riche trafiquant en Russie ou peut-être chez Poutine ou en Amérique du Sud.
Bon, alors, on s'en va maintenant de l'autre côté du fleuve.
Oui, mais savez-vous ça? Finalement, qu'on a découvert un cimetière de bateaux à vapeur dans le fleuve à Boucherville.
Ah là là!
C'est la compagnie Molson qui est la principale responsable de ces carcasses gisant au fond de l'eau.
C'est pas de la vapeur de bière quand même.
Hein? Ben, décembre 1826, dans le froid du Saint-Laurent, un homme du nom d'Hiram Gilbert remorque une immense coque de bois, 45 mètres de long, vers les îles de Boucherville. Ce qu'il transporte, c'est ce qu'il reste du Lady Sherbrooke, le fleuron de la flotte de John Molson, le célèbre brasseur montréalais. Au début du 19e siècle, John Molson ne se contente pas de brasser de la bière. Il révolutionne aussi le transport. En 1809, il lance le premier bateau à vapeur du Canada, l'Accommodation. Construit à Montréal, ce petit navire effectue même un aller-retour Montréal-Québec en combien d'heures? 66 heures. Une prouesse pour l'époque.
C'était pas le TGV, c'est clair.
De bateau à bateau, Molson perfectionne la technologie. En 1817, on lance le majestueux Lady Sherbrooke, construit en chêne blanc, équipé d'un moteur anglais Bolton & Watt de 63 chevaux. Le Lady Sherbrooke est alors le navire le plus puissant du Saint-Laurent. En 1817, donc ça fait plus que beaucoup d'années. Son luxe est à la hauteur de sa puissance. Cabine élégante, repas fastueux, musique militaire et même 3 verres de whisky par jour pour chaque membre de l'équipage. Mais la gloire des bateaux Molson ne dure jamais très longtemps. Lorsqu'un navire devient désuet, on le dépaisse, on retire son moteur, ses boiseries, tout ce qui peut être réutilisé. Puis la coque, vidée de son âme, est abandonnée dans les chenaux des îles de Boucherville, tout près de l'île Sainte-Marguerite, qu'on surnommait alors l'île Molson. C'est ce qui est arrivé au Lady Sherbrooke en 1826. Mais il faudra attendre 1963 pour que son épave soit redécouverte, gisant entre l'île Charon et l'île Sainte-Marguerite. Quant à John Molson, il s'éteint dans sa résidence de l'île Sainte-Marguerite le 11 janvier 1836, à l'âge de 72 ans.
Et on n'a pas mis son cadavre dans le fond du fleuve. Hein?
Non, c'est ça. Alors voilà.
Bien, Pierre Perrault, merci d'avoir passé ces 4 semaines avec nous.
Bien, ça m'a fait plaisir. Puis en même temps, j'ai redécouvert plein de choses intéressantes que je ne connaissais pas moi-même.
Oui, puis c'est le fun. La radio, c'est le fun. Ça fait du bien, puis c'est plaisant. Merci beaucoup à toi.
Tout à fait, merci.
J'ai trop souvent donné le pouvoir à du monde qui n'existe pas. J'ai vite mon reflet dans le miroir pour éviter les dégâts. Je me suis mise à nu, puis je me suis perdue au fil de la flamme du début. Je sais plus pourquoi j'écris. Ça doit être pour ça que j'écris plus. J'écris pour elle, j'écris pour lui. J'écris pour ceux qui n'ont pas de la nuit. J'écris quand les problèmes se multiplient. J'écris pour me sentir en vie. J'écris pour toi, j'écris pour moi.
Pourquoi j'écris, par Roxane Bruno.
Un petit retour sur la météo. Je vous rappelle donc que partout au pays, il y a quelques exceptions. Ça sera généralement nuageux, quelques averses et risques d'orages. Maximum autour de 22-24. Malheureusement, ça va être lourd. Hein. L'humidex est assez élevé, 29 à 33. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que pas besoin de crème parce que lundi suivi est de 3. Et surtout, ça prend un parapluie pour ceux qui vont sortir. Il y a un avertissement jaune de pluie abondante, d'ailleurs, pour le Saguenay, la Tuque et Ottawa. Il n'y a pas de pluie, par contre, en Abitibi. Et dégagement à Edmonton, mais surtout du soleil sur la côte ouest, le seul endroit où il fait beau.
Sans penser.
C'est quoi le filet? Version créole des Étoiles filantes par Rebecca Jean.
En tout cas, ça fonctionne très bien, hein, cette version-là. J'aime beaucoup.
Oui, très beau.
C'est très, très beau. J'ai oublié de mentionner aujourd'hui, c'est le lundi 3 août. Alors, si vous habitez à l'extérieur du Québec, vous êtes en congé
vous
aujourd'hui.
Vous écoutez.
Oups, voilà, vous êtes en congé aujourd'hui parce que c'est les congés civiques, journée de la découverte. Il y a plein de sortes de congés différents si vous habitez à l'extérieur du Québec. Ici, on n'a pas ce congé-là, mais parce qu'on en a un autre, hein, qui est le 24 juin, qui est la journée de la fête nationale ou de la Saint-Jean-Baptiste, selon ce que vous utilisez comme dénomination. Après la pause, on va parler de la Journée mondiale internationale de l'amitié, une journée qui est soulignée, en fait, par l'ONU. Ça a eu lieu le 30 juillet, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas le 3 août, parce que l'amitié, c'est tous les jours, n'est-ce pas, Maurice? Tous les jours.
À l'année.
Les amis, c'est important. Très important, les amis. Alors, on va en parler. Vous allez voir que c'est intéressant comme sujet. Et un peu plus tard, on va parler de ce sondage Ipsos sur l'intolérance ou la tolérance envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Partout dans le monde, un sondage assez important avec le sociologue Michel Doré. Et on va faire un retour sur la conférence AIDS 2026 qui avait lieu à Rio de Janeiro avec le docteur Jean-Pierre Routy qui y était. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Dansons par Céline Dion.
Dans une chronique publiée dans Le Quotidien, le 1er août, des intervenants de l'Association pour la promotion des droits des personnes handicapées et des Centres de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean soulignent l'importance de faire évoluer les mentalités entourant le handicap chez les enfants. Le texte met en lumière le travail du Centre Buntu Yakar à Sokone, au Sénégal, qui accueille une cinquantaine de jeunes en situation de handicap pour faciliter leur intégration scolaire et sociale. Les auteurs et les autrices dresse ainsi un parallèle avec les défis régionaux au Québec. Dans la région, les organismes communautaires font face à un sous-financement récurrent et à des listes d'attente allongées, ce qui limite le soutien offert aux familles et l'accès aux services de répit pour les proches aidants. Dans un article de Marie-Ève Cousineau, publié dans la Presse Plus hier, une équipe de recherche menée par le psychiatre Laurent Motron, chercheur clinicien à l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, étudie l'utilisation des vidéos sur YouTube pour favoriser l'apprentissage du langage chez les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Ce projet pilote, nommé Mozart, développé en collaboration avec l'École de technologie supérieure, s'appuie sur le concept d'apprentissage non social du langage. Les enfants autistes apprennent souvent de manière autodidacte sur le web en nommant des lettres et des chiffres, contrairement aux enfants neurotypiques qui privilégient les interactions sociales. Grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle conçus par des chercheurs en informatique, l'équipe analyse le contenu visionné et les comportements des participants sur tablette. Le but, créer des profils individuels et de tenter d'orienter les recommandations vers des contenus linguistiques. Les scientifiques rappellent toutefois qu'il ne s'agit pas de laisser les enfants devant les écrans sans encadrement. Il s'agit plutôt de réguler l'usage de la tablette pour exploiter son potentiel pédagogique. Voix de l'Est du 1er août, un jeune homme de Granby en situation de handicap, Samuel Lévesque, lance un cri du cœur pour éviter de perdre son logement adapté. Atteint de paralysie cérébrale, le citoyen, âgé de 24 ans, fait face à un avis d'éviction de son appartement de la rue Simons Sud, un endroit aménagé spécifiquement pour son fauteuil roulant. En raison du divorce de ses parents, amorcé en 2025, son père refuse de lui laisser à lui, à sa mère et à son frère la maison dans laquelle ils vivent et qui a été adaptée au fil des années aux besoins toujours grandissants de son fils. Alors que le taux d'inoccupation des logements accessibles est quasi nul dans la MRC de la Haute-Yamaska, Samuel Lévesque et ses proches multiplient les démarches auprès de l'Office d'habitation de Granby et des organismes communautaires de la région. Il lui faut trouver une solution de relocalisation. L'échéance fixée par le propriétaire approche, tandis que les listes d'attente pour un logement adapté dans le secteur comptent plusieurs dizaines de personnes. Dans l'hebdo du 1er août, la bibliothèque Maurice Loranger du secteur Cap de la Madeleine à Trois-Rivières déploie un nouveau service de médiation numérique nommé l'Espace branché, destiné aux personnes de 55 ans et plus. Cette initiative sera ouverte en septembre. L'Espace branché propose du prêt d'appareils et des ateliers pratiques et de l'assistance personnalisée assurée par des pairs bénévoles. Financé par le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, le projet fait suite à une consultation menée auprès de plus de 400 résidents afin de répondre aux besoins technologiques de la population locale. Et puis enfin, toujours en fait, c'est dans l'Express cette fois-ci, 8 mois après avoir tourné la page sur la politique municipale, Stéphanie Lacoste amorce un nouveau chapitre au sein du regroupement d'organismes des personnes handicapées du Centre-Sud du Centre du Québec. Elle occupe désormais le poste de directrice générale adjointe. Ce nouveau défi semble sur mesure pour Stéphanie Lacoste. Elle y retrouve ce qui l'a toujours animée: rassembler les acteurs d'un milieu, défendre les intérêts communs et faire avancer des dossiers porteurs de solutions.
Laisse trop bien la voix, personne n'a jamais su conjuguer. Pourtant, ne rien avoir ne signifie pas ne rien être. Matin, midi, soir, tout le monde voudrait pouvoir s'accorder. Mais une chose à la fois, respire et ne fous pas la merde. Compter les étoiles, elles font déjà partie du passé. Ça donne le vertige sur terre. Tout s'arrête un jour, c'est l'épreuve de la lucidité. Même tout ce qu'on regrette.
fatigué. Dis-le pourquoi t'es pas bien. Dis-le pourquoi c'est pas rien. Dis-le plus fort. Oh, dis-le où tu as mal. Dis-le qui t'a blessé. Oh, dis-le. Dis-le. Dis-le que tu aimes les reines. Dis-le que t'aimes les rois. Dis-le que t'as peur du futur. Dis-le si t'oses pas le dire. Dis-le que tu as de la peine. Dis-le dans mes bras. Dis-le que t'en peux plus. Dis-le que tu veux plus. Dis-le que tu crois pas. Dis-le que tu sens pas. Dis-le que tu veux plus. Dis-le que tu mérites pas ça. Dis-le que t'es perdu. Dis-le que tu t'en sortiras.
Dis-le par Angèle.
Bien, le festival Fierté Montréal bat son plein depuis le 31, donc depuis vendredi. C'est la plus grosse célébration des fiertés de la francophonie au monde, pratiquement. Alors, c'est l'occasion d'ailleurs de parler de la situation des personnes et fait des communautés de la diversité sexuelle et de genre partout sur la planète. Et ça tombe bien, un sondage mondial, Ipsos vient d'être publié, un sondage 2026, sur les fiertés de LGBTQIA+, qui révèle un état des choses inquiétant, mais il y a de l'espoir. Alors que les dernières années laissaient craindre un recul net de l'acceptation sociale, des données récentes montrent quand même une forme de stabilisation des attitudes à l'échelle internationale. Pour mieux comprendre ce qui se passe, ce portrait en fait sociologique, nous recevons donc Michel Deray, sociologue et professeur émérite à l'Université Laval. Bonjour Michel Deray.
Oui, bonjour Denis Martin.
C'est toujours un plaisir de te recevoir, Michel. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que le sondage Ipsos LGBTQ+ Pride 2026 regroupe des réponses de 19 019 adultes ouais. sondés dans 26 pays du 24 avril au 8 mai 2026. C'est toujours important de dire ça pour qu'on sache on se base sur quoi.
Oui.
Alors, on y apprend, Michel, que le soutien aux lois antidiscrimination se stabilise à 52 % à l'échelle mondiale et à 51 % au Canada. Soutien au mariage égalitaire demeure fort, 53 % mondialement, 66 % au Québec. Donc, Michel, on semble croire que le sondage indique un apaisement après quelques années de repli. Est-ce que c'est une vraie stabilisation ou simplement
non,
une pause?
Hélas, non, ça ne se stabilise pas tant que ça parce que ça diminue un peu d'année en année. Si tu regardes, moi je l'ai regardé en préparation de l'émission, donc oui. Je l'ai regardé très en détail année après année. Et puis écoute, par exemple, le soutien au mariage pour tous, là, comme on dit maintenant, ça a reculé de 20% à travers le monde.
Depuis donc...
Depuis cinq ans. Au Canada, de 15%. C'est quand même... Tu sais, on pense que le mariage, là, entre conjoints, conjoints de même sexe, on pense que c'est dans les mœurs maintenant. Apparemment que non, et on sait que, à quelques kilomètres de chez nous, là, aux États-Unis, il y a des campagnes anti-mariage, là, et ça a des retombées ici. Alors oui, il y a des points où c'est assez stable, effectivement, comme la reconnaissance de l'état civil non binaire, le soutien aux droits trans ou tout ça. Ça, c'est rassurant. Les marques d'affection en public, ça a peu bougé. Mais le mariage, ça a beaucoup bougé. La participation au sport de compétition pour les personnes trans, ça a énormément bougé. Au Canada, ça a reculé de moitié.
Ben voyons.
Un tiers des gens soutenaient les compétitions sportives, incluant des personnes trans, il y a 5 ans. Et maintenant, c'est 17%.
Ben, je lisais un article récemment dans la presse de Mario Girard qui avait beaucoup de difficultés à accepter ce genre de changement-là. Puis il interpellait les gouvernements. Mais comment on explique, j'ai toujours pas trouvé la réponse, comment on explique ce recul?
Ben, il y a beaucoup de propagande. Je pense qu'il faut l'appeler comme ça.
La désinformation, notamment sur les réseaux sociaux,
oui.
Entre autres. Ouais.
Moi, j'appellerais ça de la propagande, carrément. Mmh. Là, c'est parce que c'est de la désinformation. Les gens savent que c'est de la désinformation et le font tout de même. Puis c'est bien financé par toutes sortes de regroupements. Vous en avez déjà parlé à l'émission. Alors, ça a de l'impact, tout ça, là. Et il y a très peu de contrepoids. C'est pour ça qu'effectivement, oui, il faut interpeller les ministères concernés, tout ça. Comment se fait-il qu'on n'a pas de campagne pour contrer ces discours négatifs? Puis, bien souvent, on peut parler carrément de discours haineux, là. Mm-hmm. Alors, oui, il y a des reculs. Puis, tu sais, pour les personnes trans, c'est très frappant. Par exemple, le soutien, est-ce qu'on devrait soutenir des jeunes qui sont en questionnement et qui, sur leur genre et tout ça? Écoute, il y a 5 ans, c'était majoritaire, les gens qui disent oui, c'est normal qu'on soutienne des jeunes. Maintenant, non, c'est minoritaire. Le recul est très, très considérable. Au Canada, là, on est passé de presque 60% des gens qui soutenaient l'aide aux jeunes trans à 36%. Alors, donc, c'est... non, 37% dans le monde au Canada, c'est ça. C'est plutôt 43, mais on voit que ça a baissé, là,
de
15 à 20%. Donc, c'est quand même énorme.
Mais il y a quand même une contradiction, Michel, parce qu'en sondage, il y a 65% des gens qui reconnaissent que les personnes trans subissent la discrimination.
Oui.
Mais en même temps, ils sont en faveur de la discrimination.
Oui. Ouais. Ben, les gens reconnaissent qu'il y en a parce que souvent, ils en font eux-mêmes.
Mm-hmm. Ouais.
Si tu fais de la discrimination toi-même, c'est plus facile à reconnaître. Oui, les gens disent oui, les personnes trans sont victimes de discrimination. Effectivement, il y a une grande majorité des gens qui le reconnaissent. Maintenant, quand on demande est-ce qu'il faut en faire, les gens disent oui. Alors, c'est d'une certaine façon. Alors, c'est très inquiétant. On voit que les mentalités... sur des choses aussi simples, est-ce qu'on devrait voir plus de personnages LGBT à la télé? Il y a 5 ans, c'était presque 50% des gens qui disaient oui. Maintenant, c'est le tiers. Même dans le sport, des gens disent « Ah non, on veut pas voir de personnes la diversité sexuelle et de genre dans le sport. » Ça a baissé de 10 ans, de 10% en 5 ans.
Ouais.
Alors, donc, il y a des baisses, parfois assez considérables, en particulier sur les réalités trans, sur la visibilité. Les gens veulent en voir moins à la télé, veulent pas en voir dans le sport. Ce qui est étonnant parce qu'on a vu la série qui a été hyper populaire. Là.
Alors, Hated Rivalry, là,
oui,
rivalité
oui, oui,
passionnée. Ouais.
Et puis, ben, on avait l'impression que les gens voulaient en voir plus. Ben non, à l'échelle mondiale, et c'est pareil au Canada, les gens disent non, non, on en voit trop, on veut pas en voir, on veut en voir moins. Alors, ces discours-là grugent, je pense que c'est le bon mot, grugent graduellement, année après année. On perd quelques pourcentages d'appui et de bienveillance, si j'ose dire. Et ça creuse, et puis ben ça crée des problèmes là pour les jeunes. On voit que la violence, hein, d'autres statistiques, c'est pas.
Mais ça, c'est une autre donnée qui est très grave. Je n'ai pas les chiffres à portée de la main, mais je sais que Statistique Canada rapportait l'an dernier une hausse assez marquée de la violence envers des personnes de la diversité sexuelle et de genre, et surtout les personnes trans.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que nos gouvernements doivent réagir. Or, qu'est-ce que les politiciens et les politiciennes nous servent actuellement? On n'a pas besoin de nommer les partis, mais on voit qu'il y a des discours qui font peur. Là. Tu sais, actuellement, là, on entend les mêmes discours par beaucoup de personnes en politique au Québec qui ressemblent beaucoup à ce qu'on entendrait en Russie ou tu sais, quand on remet en question, par exemple, le genre, ah, faut plus parler du genre, faut pas enseigner le genre dans les écoles. Quel pays dit ça actuellement? L'Iran, la Russie, l'Afghanistan.
Les États-Unis.
Est-ce qu'on... Et les États-Unis de Trump. Est-ce qu'on s'identifie aux valeurs de ces régions-là? Il faut brasser un peu la cage, là, au Québec, je pense. Il faut dire, regardez, on a été... Écoute, moi, je me suis promené à travers le monde avec mes livres, là, depuis quasiment 5 décennies, et les gens disaient toujours, « Ah, le Québec, c'est extraordinaire, vous êtes tellement en avance sur le monde. » Mais maintenant, on est en train de reculer comme le monde recule. Alors, est-ce qu'on veut garder nos valeurs d'ouverture, d'inclusivité, tout ça? Ben, si oui, réveillons-nous, disons-le, faisons en sorte aussi que les gens qui nous représentent reflètent ces valeurs-là et non pas reproduisent ce qui se passe de pire là, à travers le monde. Moi, j'avoue, je suis inquiet, ben, tu sais, je suis une personne mais je m'inquiète quand même pour l'avenir.
La semaine dernière, je recevais Chris Bergeron, qui est vice-présidente de contenu de marque là, chez Cossette Communication, qui a lancé une campagne de Les Marches des Fiertés qui est très intéressante, et elle-même me disait que par moment, lorsqu'elle sort, ben, elle qui adore les chaussures, ben, met des espadrilles et s'habille beaucoup plus sobrement pour passer plus inaperçue.
Oui.
Et elle reçoit de la haine dans la rue maintenant. Et en fait, il y a comme une... J'ai l'impression... Je vais continuer là-dessus parce que c'est Fierté Montréal présentement. Et j'ai vu à tous les coins de rue, je jure, à tous les coins de rue samedi, il y avait des véhicules de police 4x4 pour empêcher que les gens puissent arriver avec ce qui est arrivé à Berlin, le véhicule Bélier. C'est rendu qu'on ne se sent plus en sécurité même ici, là.
Oui, mais il y a tout un climat social qui a préparé ça. Et comment se fait-il? Tu sais, on a un bureau de lutte contre l'homophobie, on a plein de ministères qui ont été très proactifs pendant très longtemps, qui le sont beaucoup moins maintenant. Et puis, au contraire, on a même... Écoute, regarde le comité des sages, le rapport, là, qui était très peu proactif, là, au contraire. Alors, donc, qui a été dénoncé à peu près par tous les groupements, toute la communauté. Comment se fait-il qu'on a un recul? Comment se fait-il qu'on prend pour modèle les pays les plus réactionnaires? Il faut poser la question et il faut se dire, est-ce que nous, comme citoyens, citoyennes, est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Si la réponse est non, il faut en parler avec les gens qui nous représentent. On va être en élection bientôt. J'ai l'impression que ces sujets-là vont être discutés et abordés parce qu'il le faut. On veut conserver notre Québec tolérant, notre Québec inclusif. Écoute, perdre de ça, ce serait un gros recul en arrière et je ne sais pas qui ça sert finalement. T'sais, on peut se demander à qui ça sert là, d'augmenter la haine, l'intolérance, la violence. Il faut se poser la question.
Ben, encore une fois, je vais sortir quelque chose d'assez connu, mais divisé pour régner, en fait, c'est un peu ça. On fait une campagne sur le dos d'un groupe qui fait l'objet de détestation et puis on gagne des élections avec ça.
Oui, puis des groupes qui ne réagissent pas. C'est un peu. Ben, on prend très Trump est très impopulaire actuellement dans son pays, mais on dirait que les politiciens ici se battent pour appliquer la même recette.
Ouais.
Désigner des boucs émissaires qui sont les minorités parmi les plus vulnérables. Ben, faut pas laisser faire ça. Et puis, tu sais, qu'on appartienne à ces communautés-là ou qu'on soit alliés. Puis il y a beaucoup d'alliés. Je pense qu'il faut réagir.
Ça va prendre une mobilisation. Je reviens toujours encore là-dessus. Présentement, il y a une propagande, comme tu dis, ou une désinformation, où, c'est vrai, là, on publie des choses qui sont mensongères et ça passe comme étant vrai. Et les réseaux sociaux, évidemment, n'en font rien parce que plus il y a de clics, plus ils font d'argent, évidemment. Alors ça, c'est un autre problème. Et ça va prendre quoi pour que ça arrête, ça? Que le mensonge arrête, là.
Être proactif dans nos milieux. Comme tu sais, on est amis Facebook.
Oui.
Et je publie beaucoup. J'ai 3 livres qui s'en viennent d'ici un an qui vont aborder beaucoup ces sujets-là. Et oui, il faut brasser la cage. Il faut qu'il y ait des contre-discours. Et il faut dire les vraies affaires. Il faut sensibiliser, conscientiser les gens sans arrêt. Parce que si on le fait pas, c'est un recul manifeste qui nous attend.
Bien, merci beaucoup, Michel Deray, sociologue et professeur émérite, d'avoir été avec nous là, pour éclairer ces chiffres. Puis, je rappelle, là, il y a un autre livre qui s'en vient de ta part, Michel, et qui va un peu contrecarrer ce discours-là. On va en reparler certainement à sa sortie.
Oui.
Merci, Michel.
À bientôt.
À bientôt.
Les galas n'aiment pas les nuits. Les nuits où ils se réveillent seuls dans nos lits. Les galas n'aiment pas l'ennui. L'ennui qui s'installe quelquefois dans nos vies.
Les galas préfèrent les lits carrés. Les lits où les amoureux crient comme des damnés. Les galas préfèrent les lits carrés. Surtout les lits où les amoureux peuvent s'aimer.
Les galas n'aiment pas la vie, quand délaver le rose et le jaune ont pâli. Les galas de loin préfèrent le bruit des amoureux qui les réveillent la nuit. Les galas veilleront sur toi et moi, qu'on soit séparés ou qu'on dorme sous le même toit. Les galas n'auront jamais froid, tant et aussi longtemps que tu n'aimeras que moi. Les galas n'aiment pas les nuits où ils se réveillent seuls dans nos lits. Les galas n'aiment pas l'ennui, l'ennui qui s'installe quelquefois dans nos vies. Les galas préfèrent les lits carrés, les lits où les amoureux crient comme des damnés. Les galas préfèrent les lits carrés, surtout les lits où les amoureux peuvent s'aimer. Les galas n'aiment pas la vie. Quand des pavés, le rose et le jaune ont pâli. Les galas de loin préfèrent le bruit, le bruit des amoureux qui les réveillent la nuit. Les galas veilleront sur toi et moi, qu'on soit séparés ou qu'on dorme sous le même toit. Les galas n'auront jamais froid, tant et aussi longtemps que tu n'aimeras que moi. Tant et aussi longtemps que tu n'aimeras que moi. Tant et aussi longtemps que tu n'aimeras que moi.
Pierre Lapointe et Ariane Moffat, Les Galas.
Bon, ben écoute, l'émission avance à grands pas. Après la pause, on a 2 entrevues à vous présenter. On va parler de cette journée internationale de l'amitié, le 30 juillet. Ça a été décrété d'ailleurs par l'ONU, cette journée-là, qui met en lumière des liens humains exceptionnels. C'est important, les amis. Moi, j'ai toujours les amis. Les amis, on les choisit. Les amis, c'est souvent... Ben, parfois, c'est pour la vie. Des fois, c'est des passages. Mais toujours important, les amis, on va le voir. On va aussi parler du congrès mondial AIDS 2026 qui s'est terminé à Rio de Janeiro et avec l'annonce de nouveaux cas de rémission. C'est quand même intéressant. Et on va en discuter avec le docteur Jean-Pierre Routy qui était là, qui vient de revenir d'ailleurs de ce coin du monde. Tout ça pour vous dire aussi qu'à la météo aujourd'hui, c'est presque partout la même situation au pays. C'est nuageux, des risques de pluie et d'orages. Et on a des maximums prévus autour de 22-24 et l'humidex jusqu'à 33. Ça va être lourd. Mais la bonne nouvelle, on n'a pas tant besoin de crème solaire, mais plus d'un parapluie. Pour ceux qui habitent sur la côte ouest, ben, là-bas, il fait beau. Alors, bravo à vous et ceux d'Edmonton aussi. Mais ailleurs, ben, c'est ça. On est dans la pluie, un petit peu grisonnet. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Les boys ont réussi à me convaincre d'aller dans un bar. J'avais pas le goût d'être là, il était même pas minuit et quart. La tête ailleurs, mon corps est allé de mes déboires. J'suis ma vie sur la scène, pourtant j'me vois pas comme une star. Y'a Zach à côté de moi qui me dit de regarder à ma droite. Et comme la fille est tellement belle, faut que t'ailles la voir avant qu'elle parte. Et son parfum Chanel est partout dans la pièce. Elle s'appelle Michael. Elle m'a dit qu'il se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis j'sais que tu parles bientôt, mais j't'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'il se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis j'sais que tu parles bientôt, mais j't'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. J'monnie du vibe qu'on est caché d'entendre le son de ta voix. Depuis que t'es parti, j'suis perdu, puis c'est pas évident. Mais j'perds ma tête lentement, du artisan dans le vent. J'passe du temps avec les boys, mais j'pas le même sans toi. J'écris mes lyrics dans un cahier que sans passer le temps. Puis j'prends la guide pour me dépanner quand j'te veux dans mes bras. Mais son parfum Chanel était partout dans la pièce. Oh, Michael. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis j'sais que tu parles bientôt, mais j't'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis j'sais que tu parles bientôt, mais j't'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la première fois. Elle s'est fait briser le cœur par un autre gars. Puis j'sais que tu parles bientôt, mais j't'ai vu près de moi. Tes lèvres sur les miennes encore une dernière fois. Elle m'a dit qu'elle se sent bien pour la
dernière fois par Stads.
Oui, ben le 30 juillet, c'était la journée internationale de l'amitié. Ben Maurice, t'as des amis, toi? Poser la question comme ça, c'est pas vraiment très gentil.
Non, on n'a jamais beaucoup d'amis. On a deux ou trois, sinon c'est des chummies. Des gens avec qui on se confie tout le temps, tout le temps. Deux ou trois.
Ouais. Je serais d'accord qu'il y a des personnes très, très près de nous. Mais il y a des gens qui sont près de nous et moins. Les amitiés, c'est à plusieurs niveaux. Mais cela dit, l'amitié, c'est important. Et la Journée internationale de l'amitié, c'est quand même décrété par l'ONU. C'est une journée qui met en lumière des liens humains exceptionnels, qui brisent l'isolement et changent des vies au quotidien. C'est pas rien. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Christina Charon-Saint-Pierre, qui est directrice de Parrainage civique Montréal, ainsi qu'un duo d'amis, Lydia Lafontaine, bénévole, et Marie-Ève Morissette. Allez, bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Je vais demander tout le monde de vous rapprocher du micro, voilà. Ben Marie-Ève, je vais commencer avec toi. Raconte-moi un peu comment tu as rencontré Lydia.
En fait, moi, au début, j'avais presté plus de marraine. Peut-être là, après ça, j'étais sur la liste d'attente. Et après ça, ma liste d'attente n'était pas vraiment très long. Là, après ça, on a fait une petite rencontre avec moi, puis avec Lydia, puis avec Apolline, pour être jumelée avec Lydia.
Et qu'est-ce que vous faites ensemble, toi et Lydia?
On fait plein de belles activités cet été.
Oui, aller au cinéma peut-être, les promenades, tout ça.
On était voir notre spectacle, c'est de la Tohue.
Oui.
C'est un cycle, puis j'ai vraiment aimé ça, puis c'est vraiment formidable, tout.
Bien, moi, je suis allé vers toi, de ton côté, Lydia. C'est qu'est-ce qui t'a poussé à devenir bénévole pour cet organisme-là?
J'ai des amis qui ont des enfants sur le spectre.
Ah,
donc,
de
l'autisme. Donc, j'étais déjà sensible à la cause, puis à toutes les difficultés d'intégration sociale que ces gens-là peuvent vivre. Et du fait que, rendu à l'âge adulte, souvent, il n'y a plus aucun service, au fait, très peu de services pour eux. Donc, je trouve intéressant le concept d'inclure des gens de la vie.
Tu avais le goût d'aider, finalement.
Oui, pour créer des liens avec ces gens-là, puis les sortir un petit peu de leurs habitudes, faire de nouvelles choses.
La même question que j'ai posée à Marie-Ève, comment tu as rencontré Lydia?
Ben, par le parrainage civique de Montréal.
Ouais.
Puis peut-être, c'était quoi votre première activité?
Le bingo.
Le bingo, oui.
Bingo du parrainage.
Le bingo, oui.
Bingo. Oh, ça, c'est intéressant. C'est quoi, ça, le bingo du parrainage?
Ben, c'est une activité que les gens en fait du parrainage organisent sur place. Et puis, ben, c'est un bingo comme tous les autres bingos.
Oui, c'est l'occasion de rencontrer cartes. Une personne avec qui on peut être amis, là, c'est ça?
Oui, mais c'est tous les bénévoles et les filleuls qui sont invités, mm-hmm. donc, et des jumelages et des gens qui n'ont pas encore de jumelage.
Oui, vas-y.
Non, c'est ça, oui. C'est ça, oui.
Qu'est-ce que ça t'apporte, ce parrainage avec Lydia?
On entend super bien ensemble. On fait. Puis, quand je l'ai rencontrée, j'étais vraiment très contente de la rencontrer.
Oui. Est-ce que je ne t'ai pas posé la question, on parlait de personnes neurodifférentes. Est-ce que c'est ton cas, Marie-Ève?
Oui, moi, j'ai une déficience intellectuelle, légère, oui.
OK. Je sais pas qu'on veut stigmatiser, mais ça aide un petit peu à comprendre la discussion mm-hmm. qui se passe et tout ça. Puis à Canalem, nous, on stigmatise pas les gens, je veux que tu le saches. Là. Justement, Christina, ce genre de témoignage, on a vraiment... Par ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Là,
ça fait un an.
Un an, oui. Quand même. Ben, Christina, ce genre de témoignage, moi, j'ai l'impression que ça illustre la mission de Parrainage civique Montréal. Explique-nous un peu, c'est quoi Parrainage civique Montréal?
Oui, bien sûr. En fait, la mission, c'est de soutenir l'intégration sociale d'adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme ou trisomie 21. Et le moyen privilégié pour y parvenir, c'est à travers le jumelage d'amitié.
Okay.
Donc, nous, on est un peu des entremetteuses de la relation d'amitié. Donc, on a des personnes comme Marie-Ève, qui sont des adultes qui résident sur le territoire de Montréal puis qui ont envie d'avoir un ami, un ou une amie. Donc, tout le cœur du travail qu'on fait, c'est ça, c'est de trouver des bénévoles géniaux et géniales comme Lydia qui ont envie de devenir amis. Puis c'est un type de bénévolat qui est quand même particulier parce que ça demande une forme de participation très profonde de soi.
C'est très engageant.
C'est engageant, puis en même temps, c'est très, je ne vais pas parler pour toi, mais nourrissant aussi, parce que ça permet de créer des vrais liens. Tu sais, des liens d'amitié, il n'y a rien de plus vrai que ça, du contact avec quelqu'un. Puis je pense que c'est pour ça qu'on réussit à avoir des bénévoles qui sont engagés depuis 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui. On a des parrains-marraines qui sont avec nous depuis 30 ans. Puis je pense que ça illustre en fait la richesse de notre contribution comme organisme. Puis pour vos auditeurs et auditrices, il y a 16 parrainages civiques au Québec.
Ah oui.
Donc, il y a aussi d'autres organisations dans les autres régions qui offrent le même genre de
services. Puis j'imagine que ça existe aussi dans le reste du Canada, ça doit.
Il y en a ailleurs, oui. Le mouvement a commencé aux États-Unis suite à la désinstitutionnalisation... dans les années 60, à peu près.
Pourquoi ce parrainage? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'importance d'avoir ces relations?
Je pense que pour moi, ce qui me vient à l'esprit, tu sais, je m'implique beaucoup dans d'autres organismes communautaires montréalais en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Puis en fait, c'est que souvent, on réduit les services aux personnes concernées à de l'hébergement, tu sais, les besoins de base de la pyramide de Maslow.
Ouais, tout à fait.
Manger, dormir, se loger, sécurité. Au parrainage civique, nous, on offre ce qui est en haut de la pyramide, c'est-à-dire avoir une façon d'avoir du sens dans sa vie puis d'avoir une vie dans la dignité.
Briser l'isolement,
mais aussi sentir qu'on a une place dans le monde, qu'on est aimé comme on est, qu'on n'est pas jugé, discriminé, parce que les personnes, ils en vivent la discrimination tous les jours à l'extérieur, tu sais, discriminé du système scolaire, du travail, de partout. Bien, nous, on leur dit non ici, vous êtes important puis vous avez votre place. Puis on va vous offrir des opportunités puis c'est grâce à nos bénévoles qu'on est capable de leur offrir des opportunités comme aller voir des spectacles à la TOU, de faire des choses qu'on n'a jamais essayé de faire.
Moi, j'irais peut-être voir, redemander ici à nos amis, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, comme bénévole, Lydia?
Je vais essayer de ne pas devenir émotive.
C'est permis les émotions ici.
Sincèrement, c'est vraiment une des expériences les plus enrichissantes que j'ai vécues dans ma vie adulte. C'est vraiment beau d'interagir, non seulement avec les filleuls, mais avec tous les autres bénévoles aussi. Parmi mes activités absolues préférées, c'est sûr que j'adore celles qu'on fait en one-on-one avec Marie-Ève, mais ceux de groupe où je croise tous les bénévoles et tous les filleuls, voir cette complicité tranquille qui existe dans tous ces jumelages, puis cette joie pure et, j'ai envie de dire, quasiment enfantine qui nous sort aussi, nous, les bénévoles, de notre vie adulte un peu trop compliquée. Des fois, c'est vraiment une grande richesse comme expérience.
Ah, c'est un beau témoignage. Marie-Ève, qu'est-ce que tu retires de ce parrainage?
Moi, ça fait plus de plus de 15 ans. Tu sais, je suis au Parrain ACV de Montréal. Puis c'est comme une deuxième maison. Mm. On tourtoie beaucoup de personnes, de gens. Même les responsables du Parrain ACV sont vraiment formidables aussi. J'aime bien le Parrain ACV.
C'est pas moi qui lui ai demandé de dire ça, là.
ce qu'on vient d'entendre, c'est à peu près ce que tu entends, toi?
Oui, bien, en fait, ce qu'on dit souvent, puis Lisa, tu pourras me corriger, mais ce que notre collègue qui s'occupe des jumelages dit toujours aux nouveaux bénévoles, c'est la raison principale pour laquelle vous vous impliquez, c'est pour le plaisir. Mm-hmm. C'est ça qu'on veut mettre au centre. Mm-hmm. Vous n'êtes pas des intervenantes, vous n'êtes pas des préposées, non. C'est pas un service de répit. On veut que vous ayez du plaisir avec vos oui. filles. Ayez du fun ensemble. Oui. Oui. Puis je pense que c'est ça qui transparaît. Tu sais, Lisa parlait de la joie, Marie-Ève parlait de la maison. Fait que c'est cet espèce d'esprit de familiarité-là. Oui. Des traditions, on fait toujours les mêmes grands 4 événements dans l'année.
Ah,
tout
oui.
le monde a hâte et les attend.
Oui, oui, oui.
On voit l'enthousiasme ici, hein?
Oui, oui, là, ils ont hâte qu'on célèbre la journée québécoise du parrainage
civique. Je m'en allais là. Ça, c'est le 25 septembre, c'est
la,
ça?
La journée, la journée nationale, c'est le 25. Puis nous, au parrainage civique Montréal, on la célèbre au Parc Préfontaine. Oui. On fait un petit barbecue. Tout le monde est invité, les filleuls, les familles, les bénévoles, leurs conjoints, conjointes, famille, amis. Puis c'est un événement qui permet d'avoir une forme de mixité sociale parce qu'on est dans un espace public, on fait un barbecue, on fait toujours une journée thématique, puis il y a des personnes de la communauté qui viennent nous rencontrer. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Puis ça permet des liens, briser un peu certains préjugés aussi qu'on pourrait avoir.
Ben écoute, le temps file, c'est intéressant, mais j'aimerais quand même qu'on rappelle s'il y a des gens qui veulent faire comme Lydia, s'impliquer.
Appelez-nous. 514-843-8813. On cherche des bénévoles. À partir du mois de septembre, on va avoir des nouvelles cohortes de bénévoles. Mm-hmm. Donc, on fait tout un processus d'intégration. On apprend à vous connaître. Tout ce qui est nécessaire, c'est d'être un adulte qui a envie de s'impliquer dans la vie de quelqu'un, qui a envie de s'impliquer à long terme. Puis nous, on s'occupe de tout le processus de jumelage. Apprendre à vous connaître, connaître vos intérêts, puis essayer de vous jumeler avec quelqu'un qui a des intérêts communs.
Bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Christina Charon-Saint-Pierre, directrice de Parrainage civique Montréal. Puis merci. Ah, bien, tu sais, t'avais-tu quelque chose à rajouter ici?
Oui. Puis aussi, la liste est vraiment longue pour les filles, puis...
T'as raison.
Oui. Ouais.
Notre liste d'attente est longue, comme
Marie-Ève dit. Très longue, oui.
Fait que venez-vous-en, les bénévoles. Oui. On a besoin de bénévoles.
Oui. Oui.
C'est clair. Merci à toi aussi, Marie-Ève. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Marie-Ève Morissette. Et Lydia, merci pour ce beau témoignage à toi aussi, qui est bénévole. Merci tout le monde.
Éternel et parfait néanmoins, je confirme ma présence. Non pas le premier ni le dernier, je suis dans la mouvance. Le vrai n'est plus ce qu'il était, non. Je côtoie la démence. Je tète le sein du diable qui m'allaite. J'entretiens ma dépendance. Les horreurs n'arrêtent jamais. C'est un vrai plan séquence. Les voix qui ont donné un micro brillent par leur silence. Steak, blé, dinde, patate, c'est fini. Le monde est à ta porte. Des munitions tirées sur des gaz, ah oui, sont faites au Québec, mon pote. Le fleuve coule dans mon sang, laisse faire la souche, fière nouvelle branche. Alouette, alouette, je t'aime. On assure ta descendance. La vie c'est une grosse joke, une plaisanterie. T'en ris ou tu sautes. Le futur m'inquiète, à quiconque en haut j'implore la clémence. Je rêve au coin d'ombre au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre au fond du jardin. Je rêve au coin d'ombre au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai à ta demain. Je rêve au coin d'ombre au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai à ta demain.
Je confirme ma présence par les louanges.
Alors lui, il avait confirmé sa présence, il est même revenu de ce congrès mondial AIDS 2026, un congrès donc on fait le point là, sur les avancées et les reculs concernant le VIH, le SIDA dans le monde. Alors ça se tenait à Rio de Janeiro On a quand même eu l'annonce de nouveaux cas de rémission. Et pour discuter de tout ça, nous recevons le docteur Jean-Pierre Routy, hématologue et chercheur principal au Centre universitaire de santé McGill. Donc, docteur Routy, bonjour, bienvenue à Canalem.
Oui, bonjour.
Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, docteur Routy. Deux nouveaux cas de rémission du VIH après des greffes de cellules souches. Qu'est-ce que nous apprennent ces guérisons exceptionnelles sur la recherche d'un traitement accessible à grande échelle?
Alors, il confirme que c'est possible. Ça fait maintenant 11 personnes qui sont officiellement, disons, guéries par les critères d'aujourd'hui de la science. Ils ont arrêté leur trithérapie pendant 2-3 ans et le virus n'est pas revenu et n'est pas détectable à travers les prises de sang, les biopsies. Donc, c'est une très grande victoire parce que beaucoup disaient qu'au niveau du cerveau, on n'arriverait jamais à enlever le virus de cellules assez dormantes qui entourent les nerfs. Et donc, finalement, c'est possible. Donc, ce sont de grandes victoires. Cependant, les greffes de moelle sont faites uniquement chez des gens qui ont des leucémies ou des cancers qui ont échoué au traitement standard de ces maladies. Et c'est en troisième ligne que les greffes de moelle ont lieu, et le plus souvent avec du sang non infectable. Donc, c'est une personne sur 500 qui a une particularité, c'est que le deuxième récepteur pour que le virus entre dans les cellules est modifié, et donc ce sang n'est pas infectable. Et si on a un sang qui est à la fois compatible avec le receveur et le donneur, et qui a cette particularité d'être ininfectable, eh bien, dans la plupart des cas, quand l'ensemble du sang est changé, on arrive à une guérison.
Ouais, ça semble très complexe et très particulier. Et je comprends qu'on est loin là, d'avoir un traitement qui serait applicable à tous. Là.
Tout à fait, parce que après la greffe, il faut prendre des médicaments immunosuppresseurs qui sont beaucoup plus toxiques que ceux de la trithérapie ou de la bithérapie. Donc, c'est simplement une sorte de leçon. Enfin, pour les personnes obligées à cause de cancer, c'est excellent. Maintenant, pour les autres, pour la population des personnes vivant avec le VIH, c'est seulement une leçon de dire que c'est possible, et c'est à nous, aux chercheurs, en association avec les groupes communautaires, à trouver des études, à trouver des stratégies plus douces, plus pointues, plus focalisées, pour essayer d'enlever ces cellules sans trop abîmer la personne.
Alors, Dr. Routy, vous présentiez vous-même des travaux sur l'immunothérapie et le rôle de l'immunométabolisme dans le contrôle du virus. Alors, comment ces approches inspirées de l'oncologie permettent-elles de cibler là, les réservoirs où se cache le VIH?
Oui, alors donc, c'est un nouvel espoir. Il y a à la fois ce qu'on appelle l'immunologie, c'est la fonction des cellules, mais on s'aperçoit que les cellules doivent manger évidemment soit du gras, soit de la viande, soit du sucre, et que selon le choix ou la liberté de choix de ces cellules, la réponse antivirale est plus ou moins bonne. Et on sait que les personnes qui contrôlent le VIH sans médicaments, ce qu'on appelle les élites contrôleurs, eux utilisent plutôt le gras et les acides aminés, dans ce qu'on appelle un peu l'autophagie, c'est-à-dire un système un peu écologique qui brûle pas tout et qui va doucement, par rapport à des personnes VIH ou des personnes cancéreuses ou autour de la tumeur ou dans l'immunité des VIH qui reçoivent des bi- ou des trithérapies, on utilise préférentiellement le sucre. Et on sait qu'à long terme, c'est-à-dire passer 3 semaines, ce type de nutrition au niveau cellulaire est moins performant que d'avoir une alimentation variée. Si vous voulez, ce que nous disent les diététiciens au niveau de notre corps est vrai finalement au niveau cellulaire. Et ce que j'ai présenté, c'est certains facteurs qui régulent l'habileté de prendre du gras par la cellule pour répondre efficacement à une infection, eh bien, peut être modulé. Donc, pour l'instant, nos travaux sont au laboratoire, mais ouvrent la porte à des modèles de souris où l'on peut bloquer cette protéine et qui peut performer ou remettre, si vous voulez, en place un système où à la fois la réponse immune et la façon de nourrir les cellules qui doivent se multiplier, donc manger beaucoup et fabriquer des membranes cellulaires, se multiplier, eh bien, on pourrait optimaliser ce combat anti-VIH.
Alors, ce sont des avancées hyper intéressantes, Dr. Routy. Le problème maintenant, ben, on va aller vers les reculs, si vous voulez. Les récentes coupes dans les financements internationaux, Et on ne parle pas seulement des États-Unis, l'Europe, le Canada aussi l'ont fait. C'est compliqué tout ça, ça complique la recherche, ça complique aussi la survie des personnes atteintes du VIH.
Absolument, on a montré que ce soit dans beaucoup de pays, et là c'était focalisé sur l'Amérique latine, mais que l'ensemble des coupures limitées, il y avait fermé, certains centres ont fermé, des personnes ont perdu leur emploi. Donc la qualité du suivi, la mise en place du dépistage, l'accès aux médicaments universels eh bien, a diminué par rapport à l'an dernier. Donc ça, c'est une grande tristesse. Et donc, il y a un certain nombre de cas qui sont calculés d'augmentation de nouvelles infections, de nouvelles transmissions, parce que l'économie mondiale va mal, qu'il y a des pays en guerre, et qu'évidemment, ça ne devient pas la première des priorités. Une petite note d'espoir, c'est qu'il y a maintenant des liens directement entre les pays du Sud, c'est-à-dire l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, avec l'Afrique du Sud, donc des liens qui ne passent pas forcément par l'Occident du Nord, et il y a quelques espoirs de collaboration, mais qui viennent à des niveaux économiques et à des restrictions de budget, mais il y a quand même des possibilités, c'était le thème du congrès, c'est-à-dire de repenser, de redémarrer, d'approcher les réponses globales de façon nouvelle, évidemment, avec moins d'argent qui vient des pays du Nord.
Je fais encore une parenthèse sur les États-Unis parce qu'on sait, dans une autre maladie qui s'appelle la rougeole, qui est en hausse fulgurante là-bas parce que les gens ne se font plus vacciner, il y a comme une espèce de vision de la santé et qui gêne beaucoup. Et les États-Unis, donc, qui contribuent de moins en moins à la lutte et du moins au traitement ou à l'aide pour les personnes vivant avec le VIH dans le monde, il n'y a pas un risque de voir le VIH augmenter, c'est-à-dire de voir de plus en plus de cas à cause de cette situation-là?
Oui, de l'attitude anti-vaccin, la réponse contre le professeur Anthony Fauci.
Ah, ça, c'est épouvantable, oui.
Kennedy Junior, que j'ai écouté hier sur CNN, mais c'est absolument horrible, et d'un être qui n'a aucune connaissance, qui ne sait même pas lire un article en entier, ose dire que des études n'ont pas été faites, que pour le vaccin de la rougeole, peut-être, mais on n'est pas sûr, et que l'autisme pourrait être associé, on n'en sait toujours rien, alors que 1,3 million, dit la journaliste, qui a été très courageuse, d'études, enfin, sur une population d'1,3 million, aucune augmentation, et c'est sûr que de laisser parler un homme aussi puissant, par sa position politique et dire des énormités de ce calibre, j'espère que l'histoire s'en rappellera et que justice sera faite.
Et moi, j'ai l'impression que ça va déverser dans la lutte contre le VIH aussi, ce genre d'attitude-là.
Oui, et puis c'est surtout une attaque même qui peut être physique contre le professeur Fauci, qui a été quand même le grand visionnaire de la réponse du sida, de l'immunologie du sida depuis 30-40 ans. Et là, il est probablement menacé de mort par tous ceux qui écoutent ces discours complètement inimaginables pour une société démocratique et intelligente quand même par ailleurs. C'est incroyable.
Je sais que je sens en vous cette grande passion parce que vous êtes passionné par votre travail. Je vous connais depuis longtemps et je sais que c'est très important pour vous. Comment décriveriez-vous la situation ici au Québec, au Canada, pour le VIH?
Je pense qu'il y a un certain moins d'intérêt dans le sens où la maladie est quand même contrôlée. La plupart des gens vivent relativement bien en prenant un comprimé par jour et certains des piqûres tous les deux mois. Ceci dit, le stigmate, la difficulté quand on rencontre quelqu'un d'annoncer son statut de VIH, cette marque indélébile reste très fort, malgré que l'état de santé se rapproche de plus en plus des personnes n'ayant pas le VIH. Donc tout ce progrès est là et il faut maintenir ça et que les gens ne se découragent pas. C'est sûr que pour l'instant, les traitements sont à vie et c'est évidemment difficile à l'échelle d'une vie de ne pas avoir des crises, des moments d'abattement, de découragement. Et donc, il y a certaines personnes qui arrêtent ou qui n'osent toujours pas le dire ou pas rencontrer des gens en ayant honte. Et ce stigma reste quand même très fort et doit être combattu.
Et ça nous amène donc à parler de la sérophobie qui semble, comme l'homophobie, comme le sexisme, en hausse, des études démontrent ça d'ailleurs, ça non plus, c'est pas une bonne nouvelle pour lutter contre le VIH.
Non, ce qui fait énormément de peine, c'est que ce sont les pays africains qu'on a quand même tellement défendus et par le fait de leur couleur de peau, de leur origine géographique. Et maintenant, c'est les gouvernements de ces pays qui disent que dans l'esprit de décolonisation, l'homosexualité est un apport des colons français ou anglais. Et de voir que les pays disent on met en prison les gens homosexuels et ceux qui les soignent au nom de la décolonisation. Et c'est en ça où c'est très difficile de répondre, où même l'intervention de gens de bonne volonté est quand même repoussée par une attitude de certains pays. De plus en plus de pays en Afrique ont changé leurs lois, les ont durcies dans cette culture de décolonisation. Et donc c'est très difficile pour la société internationale du SIDA de répondre et d'avoir un discours contre ces politiques-là.
Docteur Auti, d'abord, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que vous êtes rentré ce week-end seulement de Rio et d'avoir pris le temps d'expliquer à nos auditeurs, auditrices, la situation. Puis au plaisir de se parler bientôt.
Avec plaisir.
Alors, c'était Docteur Jean-Pierre Auti, qui est hématologue et chercheur principal au Centre universitaire de santé McGill. Alors, c'était au quotidien, ce lundi 3 août 2026. Alors, comme vous le savez, je vais remplacer Hélène pour les 4 prochaines semaines. Elle est en vacances, bien méritée, puis on lui souhaite de bien se reposer. Moi, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie aussi aujourd'hui Maurice Bolduc, qui lui aussi fait du remplacement de Mathieu Tessier, qui est en vacances aussi. Alors, les gens ont le droit de prendre des vacances. C'est un plaisir d'animer cette émission, et c'est toujours très, très enrichissant, et pour moi, en tout cas, et pour ceux qui écoutent, je l'espère, de rencontrer toutes ces personnes que nous recevons. Je vous rappelle donc à la météo, hein, ça va être de la pluie pas mal partout, risque d'orage, c'est humide, c'est lourd et il y a juste, je pense, quelques petites régions comme j'ai dit, je pense qu'il y a la Gaspésie et il y a aussi l'ouest du pays et Edmonton, la côte ouest donc en Colombie-Britannique. Moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. Pour ceux qui sont à l'antenne de Canal M encore aujourd'hui, je serai là à 17h pour une reprise de l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Je vous avise tout de suite que nous serons de retour en nouvelles émissions après la fête du travail pour cette émission-là. Moi, je vous revois demain matin ici à Canal M. Au revoir.